Chaque après-midi, il nous accompagne pour nous mettre du baume au cœur, tout en nous informant, oui. Bienvenue dans les meilleurs moments de la semaine, allant du vendredi 15 mai au jeudi 21 mai avec Mathieu Noël. Sa complice Eva Roch, les journalistes d'Europe 1, toujours prêts à s'affronter pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Et durant cette première heure, eh bien, on va parler de Jimmy Fallon, vous savez, l'animateur télé révélé par le Saturday Night Live aux États-Unis. On va parler aussi des chats, ces prédateurs qui décimeraient les oiseaux. Au menu aussi, la recette d'un dessert à emporter, une idée de programme télé pour la jeunesse. Et puis, on va prendre des nouvelles d'abord de l'animateur. Patrice Agathe Le Caron, puis un petit peu plus tard de la chanteuse Dani.
Saluons notre invitée du jour, une animatrice qu'on aime beaucoup, Eva, spécialisée dans l'enfance et qui chaque jour, dans la maison des maternelles sur France 5, nous donne des conseils pour être de meilleurs parents. Des parents qui, par exemple, ne seraient pas à bout psychologiquement après 64 jours de confinement. Car je rappelle que beaucoup d'enfants n'ayant pas pu reprendre l'école, beaucoup de parents sont toujours techniquement confinés avec eux. Des parents aimants, bien sûr, ce n'est pas la question, mais qui sont quand même souvent à deux doigts de leur dire
« Je vais te défoncer la tête, non, je vais te massacrer, je te tuerai, espèce d'enfoiré !»
Sauver, jamais, il y a heureusement jamais. Agathe Le Caron, bonjour.
Bonjour Mathieu, mais je ne vais pas vous sauver, je vous le dis tout de suite, parce que je ne peux plus les saquer non plus. Donc désolé, mais là, il ne faut pas compter sur moi. Moi, j'abdique, les gars, c'est fini.
Eh bien, c'était ma question, Agathe. Je me demandais si, en tant que professionnelle de l'enfance, vous aviez mieux surmonté le confinement que d'autres.
Tout.
Non, pas du tout, ça
pas
a été compliqué.
Tout.
Vous avez deux enfants à la maison, assez petits.
Voilà, j'ai deux enfants de 4 et 6 ans, donc, et en plus deux garçons. Donc non, je les aime, mais je ne peux plus les saquer. Donc voilà, donc, je ne peux pas vous aider. Merci.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Agathe Le Caron qui nous accompagne cet après-midi. Agathe, vous présentez l'émission La Maison des Maternelles sur France 5. Je vous demandais à l'instant si vous étiez au bout du rouleau à l'issue de ce confinement. Et en fait, vous aviez déjà un peu donné la réponse à l'antenne.
Je suis au bout du rouleau. Donc je ne sais même pas si je peux continuer cette émission. Déjà qu'on a vu mes seins, parce que ce micro pèse.
Il était temps que ça se termine, hein, ces émissions confinées.
Écoutez, je pense qu'il était largement temps. Bah, c'est-à-dire que j'avais quand même le physique de Jermaine Jackson.
Non.
Les gens ont découvert. Non, mais les gens ont découvert que j'avais des cheveux en poils de bœuf. J'avais même plus envie de me maquiller. J'ai interviewé des hommes politiques en legging avec des charentaises. Il faut là, je pense que c'est vraiment, il est largement temps que tout cela cesse. Et d'ailleurs, ça y est, je suis déconfinée à moitié, mais déconfinée.
Et alors,
on est dans un studio, j'ai un brushing et tout. Oh là là.
Vous êtes contente? Il y a une excitation à revenir en studio. Moi, je sais que j'étais très bien dans mon canapé, puis finalement là, de retrouver Eva dans le studio, je suis très content. Vous aussi, vous êtes content de retrouver vos collègues?
Non, mais évidemment, moi, le moindre rendez-vous me paraissait une montagne à gravir. Alors aller le matin, tous les matins, direct dans un studio, quelle horreur. Et ben en fait non, je suis très contente et ça me met du baume au cœur.
Agathe, on sent votre bonne humeur. Vous êtes quelqu'un d'anxieux ou pas du tout dans la vie? Le Covid vous a fait peur? À un moment vous vous êtes dit, est-ce que comme moi vous avez ressenti les symptômes? Moi pendant 3-4 jours je répondais plus au téléphone, je respirais plus. Hein.
Voilà, alors moi j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires, j'ai perdu le goût et l'odorat. Malheureusement ma sérologie est négative. Non, je suis super hypochondriaque, je suis super angoissée. Donc, pour moi ça a été une période très compliquée. Je pense que pour les gens angoissés, ça a été terrible.
Mais angoissés pour vous et pour vos enfants ou d'abord pour vous et c'est que pour vous?
Essentiellement pour moi.
Les enfants, dans un second temps. En avril, on a pu assister à une séquence quand même très très mignonne.
Oh oui.
Quand Félix, un de vos enfants, est venu vous quémander un câlin alors que vous étiez à l'antenne.
Qui mêle l'art de l'écriture. Oula, je crois que j'ai un petit enfant qui arrive là. Qui mêle un câlin. Oh. C'est pas mignon, chérie, mais bon, voilà.
Allez, câlin, quoi.
Bah oui, c'est trop chaud. Puis dans une émission comme La Maison des Maternelles, ça
on
tombe
attend,
sous le
on
sens.
Attend ça, oui, bien
une
sûr.
Séquence comme ça.
Ouais, non, c'était trop mignon.
Est-ce que...
Non, j'ai eu quand même autre chose. J'ai fini en hurlant comme ça la première. Donc là, c'était moins chouette.
Il avait fini quoi?
Bah écoutez, je vous expliquerai hors antenne. Adieu, quand nous verrons. Quand
c'est
le
parce
que
Mathieu, son fils est trop grand. Il a oublié ce que ça voulait dire. C'est fini.
C'est ça. Ouais.
C'est surtout mon chat qui
vous
est emmerdé pendant ces émissions confinées. Elle se foutait toujours sur moi avec le micro. Ça raclait contre le micro. C'était très très agaçant. Alors est-ce que vos enfants vous manquent maintenant que vous êtes déconfinés, Agathe? Ou au contraire, vous vous dites je vais bosser tout l'été. Moi, tiens, on va faire la maison des maternelles. On va continuer cet été.
Non, honnêtement, mais là vraiment le plus honnêtement possible, mes enfants me manquent pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que non, je les ai quand même beaucoup vus. Ils ont pas arrêté de se taper, de hurler. C'est-à-dire que vivre 2 mois en travaillant comme j'ai travaillé, c'est-à-dire non-stop avec un mari qui travaille non-stop et des hurlements. Non, franchement, je pense qu'on a tous vécu. C'est nerveusement, c'est intenable. Et en plus, j'étais dans des bonnes conditions et tout. Donc, j'ose même pas imaginer pour des gens qui habitaient dans des tout petits appartements. Et j'arrêtais pas de me le dire, j'avais pas le droit de me plaindre, mais je me plaignais quand même tout le temps.
C'est ce qu'on aime, Eva, chez Agathe, c'est qu'elle nous, elle nous déculpabilise en tant que parent.
Oui, c'est
quand
ça. Mais c'est vrai, mais l'émission est faite pour ça, notamment.
L'émission est là pour ça. Alors, justement, quelles questions vous avez eues pendant cette période? Est-ce que déjà vous avez eu plus de questions que d'habitude pendant cette période confinée?
C'est-à-dire qu'en fait, au début, on s'est demandé, on a arrêté les émissions par la force des choses. On a fait une dernière spéciale un lundi à France Télévisions et puis après, on a arrêté. Et on s'est rendu compte qu'on avait tellement de questions sur les réseaux. Les femmes enceintes étaient un peu la population oubliée. Donc, il n'y avait plus de préparation à la naissance, il n'y avait plus de suite de couches. Elles ne savaient pas si les conjoints pouvaient assister à l'accouchement. Elles étaient complètement paumées. On disait que c'était une population à risque, mais en même temps, on ne leur disait pas pourquoi. Enfin bref, donc on s'est dit là, vraiment, il y a une vraie demande. Et puis après, évidemment, il y avait comment occuper les enfants, comment gérer le télétravail avec des enfants petits. Et surtout, moi, les miens, 4 et 6 ans, à la limite, je peux les mettre devant un coloriage et ça passe. Mais quand on a des enfants de 15 mois, commencent à marcher pour les occuper, l'enfer. Je pense que là, pour le coup, on a eu une vraie mission de service public. Et au début, j'avais des frissons quand il y avait le générique. Je me disais, oh là là, mais là, tout prend un sens. Enfin bon, j'étais dans un état pas possible. Bon, après, ça a été un petit peu récurrent, en fait. Avec les enfants qui hurlent derrière. Mais bon, non, franchement, c'était... Non, je pense que vraiment, pour le coup, on a ressenti une vraie demande, quoi.
La maison des maternelles sur France 5, l'émission plus utile que jamais en ce moment. Agathe Le Caron passe un moment avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mercedes-Benz.
Pour repartir du bon pied, il faut parfois un bon coup de pouce. Alors pour vous aider à bien redémarrer, Mercedes-Benz vous offre 6 mois de loyer pour tout financement en crédit bail 48 mois d'un véhicule utilitaire neuf, quel que soit le modèle ou ses équipements.
Mercedes-Benz. Offre de Mercedes-Benz financement réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation du dossier. 6 loyers offerts hors premier loyer majoré valable pour toute commande jusqu'au 30 juin 2020. Conditions sur mercedes-benz.fr/vans.
Bouygues Télécom. En ce moment, ce sont les bons plans du printemps chez Bouygues Télécom. Le nouveau Samsung Galaxy S20 4G avec son appareil photo intelligent est à seulement 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Idéal pour capturer les retrouvailles avec vos proches. Et parce que chez Bouygues Télécom, nous avons hâte de vous retrouver, nos boutiques sont ouvertes et nos conseillers mobilisés pour vous accueillir en toute sécurité. Alors à très vite. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 68,90€. Engagement 24 mois.
Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui encore, Leclerc vous propose des offres sur vos marques préférées.
Du 19 au 30 mai chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 20 bouteilles de bière Heineken de 25 centilitres, bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le second pack. Leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, la loi interdit la vente d'alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Voir modalités magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
Le président de la Fédération des chasseurs a proposé de piéger les chats car ils seraient de trop gros prédateurs. Info ou intox, on en parle dans un instant dans l'équipe est sauvage.
16h, 18h.
Les chasseurs pointent la responsabilité des chats domestiques sur le recul d'une partie de la faune. Ils ne sont pas les seuls. La Ligue protectrice des animaux aussi. Explication avec Mathieu Noël, Eva Roch et Anne Le Gall.
Elle est l'amie des animaux, Eva. Si jamais la conversation dévie sur le thème de la chasse, elle ne peut pas s'empêcher de casser l'ambiance en faisant une réflexion d'écologiste.
Moi, j'ai quitté un homme parce qu'il avait raté un sanglier qui a mis 2 heures à mourir à mes pieds.
Il ne l'avait sûrement pas fait exprès.
Sanglier non plus.
Autant vous dire que lorsqu'Anne Le Gall, notre expert environnement, a appris que le patron de la Fédération des chasseurs avait proposé de piéger les chats sous prétexte qu'ils seraient de trop gros prédateurs pour les oiseaux, son sang n'a fait qu'un tour, n'est-ce pas Anne?
Oui, alors l'affaire a démarré il y a 2 semaines, donc suite aux propos tenus par le président de la Fédération des chasseurs, Willy Schrein, lors d'un échange avec le site chasson.com et posté sur les réseaux sociaux. Il rappelait effectivement le caractère prédateur des chats, il suggérait de les piéger notamment lorsqu'ils se retrouvent à plus de 300 mètres des habitations.
Il faut trouver une solution pour le chat, et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Mais je le sens pas, on voit bien, on est attaqué de toutes parts, on nous reproche la chasse, on nous reproche la corrida, on nous reproche les combats de coqs, on nous reproche plein de choses. Alors maintenant, si on piège les chats, je vous dis pas quoi ça va ressembler. Donc, mais le chat est en train de détruire la biodiversité.
On dirait un sketch des inconnus.
C'est pas mal ça. Et puis les combats de coqs, c'est sympa aussi les combats de coqs.
Alors, il est pas très à l'aise avec le sujet, on l'entend bien. Il sent qu'il est en train de marcher sur des œufs, que c'est pas très politiquement correct, cette idée de piéger des chats à 300 mètres d'une habitation. Et ça n'a pas loupé. Évidemment, ses propos ont été repérés par des militants et des associations de la défense de la cause animale. Et ça lui a valu une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Willy Schrein a dû même préciser par la suite qu'il n'a jamais voulu tuer des chats domestiques, juste capturer des chats errants pour les placer en fourrière ou dans des refuges.
Ah, ah bah oui, ah bah ça c'est différent.
Voilà. Et donc, mais le sujet de toute façon est ultra sensible, mais c'est l'occasion de revenir sur la réalité du caractère prédateur du chat. Parce que le chat est-il vraiment en train de détruire la biodiversité?
Alors là, je vous arrête tout de suite, Anne, mais si vous voyez Miam, si je vous montre mon chat, c'est-à-dire qu'elle est pigeon, elle les voit, si jamais elle pouvait en choper un, mais jamais, elle est tellement lente, jamais elle arrivera à choper un pigeon.
C'est un chat domestique qui est vraiment calé contre vous sur le canapé.
On parle de ce type de chat, là.
Non, on parle des chats qui sont loin des habitations, c'est ça.
Ils ont perdu tout instinct, ils sont incapables, ils veulent leur friskies et c'est tout.
Oui, les chats d'appartement, effectivement, ils ont un peu de mal à chasser les oiseaux, mais imaginons un chat domestique qui a accès à un jardin. Est-ce que vous savez ce qu'il chasse le plus? Est-ce que dans son tableau de chasse, on trouve d'abord les oiseaux?
Non, les mulots.
Ou alors d'abord les souris?
Les petites souris.
Ouais, j'aurais dit les souris, moi aussi, ouais.
Eh ben oui, effectivement. 70% des proies sont des rongeurs et des petits mammifères. C'est 20% d'oiseaux et 10% d'insectes, de batraciens ou de poissons. Et est-ce que vous avez une idée du nombre d'oiseaux que chasse un chat par an en moyenne quand il a un jardin?
0,2.
C'est un petit peu plus. Entre 5 et 10 oiseaux par an.
C'est pas énorme.
Donc, effectivement, rapporté aux 13 millions de chats que possèdent les Français, même si on tient compte du fait qu'il y a des chats d'appartement, ça ferait à peu près 75 millions d'oiseaux tués en France, selon la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.
Ah oui, c'est beaucoup quand même, ouais.
Ouais, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais le patron de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, que j'ai eu au téléphone, remet quand même les pendules à l'heure, parce que quand le patron des chasseurs dit que le chat détruit la biodiversité, faut quand même pas exagérer, la cause numéro de la disparition des oiseaux en France dans les années récentes, là c'est pas le chat, c'est l'agriculture intensive qui détruit l'habitat des oiseaux et c'est l'utilisation d'insecticides qui privent les oiseaux de leur nourriture évidemment.
Ah oui, mais est-ce qu'on peut empêcher le chat de chasser? C'est dans ses gènes de chasser le chat, même s'il est nul.
Et voilà, effectivement, on ne peut pas le priver de cet instinct de chasse, c'est génétique, on n'y peut rien. Et en l'absence de souris ou d'oiseaux, je ne sais pas si vous avez constaté ce comportement chez Miam, mais un chat d'appartement va quand même courir après les moustiques quand il en croise.
Ah oui, les mouches, elle court derrière les mouches, elle les chope contre la vitre, et même les mouches, elle n'est pas foutue de les attraper. c'est pathétique.
Elle n'a pas d'instinct de chasse, c'est pas dans ses gènes.
Et puis elle doit avoir son petit quart d'heure de folie le soir, non?
Oui, j'ai un petit plumeau pour ça. J'agite le plumeau, paf, paf, sur le canapé. Elle court derrière et puis elle a toujours un temps de retard. C'est quelque chose.
Donc il y a quand même cet instinct et c'est pour ça qu'il est important de responsabiliser quand même les propriétaires de chats à la protection des oiseaux. Et donc il y a plusieurs conseils de la LPO et de 30 millions d'amis. Donc il y a des choses simples à faire dans le jardin pour éviter que le chat ne chope tous les oiseaux. C'est installer des plantes répulsives au pied de certains arbres, surtout si on a mis des nichoirs dans l'arbre. On peut aussi fabriquer un répulsif maison avec des gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et des gouttes de citron mélangées à de l'eau. Ça fait un répulsif naturel. Vous pouvez alors aussi équiper votre chat d'une clochette ou d'un système de collerette avec
des couleurs. Si en plus on lui met une clochette, alors c'est terrible.
Non mais alors la collerette, si vous voulez voir à quoi ressemblent les collerettes, vous allez sur le site de la LPO, il y en a qui sont en vente. En fait c'est comme une collerette de clown, donc en fait le chat pense qu'il est invisible, il est tapis dans l'herbe, et en fait il est super visible parce que la collerette est flashy.
C'est terrible.
Mais allez sur le site, c'est assez drôle. Mais en tout cas c'est efficace. Et puis enfin la SPA et 30 millions d'amis insistent aussi sur l'importance de la stérilisation des chats en rappelant qu'un couple de chats errants non stérilisés peut engendrer, à votre avis, jusqu'à combien de descendants en 4 ans?
Alors là, aucune idée.
18.
20 000 descendants.
Mais comment je pouvais être si loin?
Ah oui,
c'est... J'ai mal compris la question, parce que là, quand même, j'ai dit une énorme connerie. J'ai dit 18, vous avez dit 20 000. Oui, 18 000, c'est ce que je voulais dire, évidemment.
Oui, bien sûr.
Donc, j'étais pas si loin. Merci beaucoup, Anne Le Gall, et cessons de ridiculiser nos chats. C'est ce que je retiens de cette chronique. Merci.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent le plus gourmet de la bande, Olivier Pouls.
Alors oui, le confinement, cette parenthèse de solitude, de retour à la terre pour certains, a été l'occasion pour beaucoup de se recentrer sur l'essentiel. Mais pour d'autres qui ont complètement dégivré pendant cette période, il est temps, grand temps, de rentrer à Paris. Je pense bien sûr à notre expert gastronomique Olivier Pouls qui vit depuis bientôt 3 mois en autarcie, reclus dans un hameau bourguignon, avec pour seule compagnie une bouteille de chartreuse dans laquelle il tape allègrement chaque après-midi avec le curé du village, l'abbé Bitard. Au programme, sauciflard, pinard et blague de bon goût comme hier quand Pouls s'est mouché devant l'abbé.
C'est beau comme tout, c'est vert, on dirait de la pistache, mais ça n'en est pas.
Olivier,
mais c'est
rentré à la maison, Olivier.
Alors vous avez les salutations de mon ami l'abbé qui aimerait venir assister un jour, quand ce sera possible, bien sûr, à l'émission, il en rêve, il vous écoute toutes les après-midi.
Moi j'aimerais me confesser surtout, j'ai beaucoup de choses.
Eh bien prévoyez qu'il reste 2-3 jours à Paris alors, hein, parce qu'on lui prendra une chambre. Hein, voilà.
Non mais je propose plutôt que Mathieu vienne ici en Bourgogne, je lui prêterai une chambre.
C'est à plus de 100 km Olivier,
oui.
On ne peut pas, rappelez-vous des consignes.
On attendra.
Oui.
On
c'est quoi le dessert du jour
Olivier, on parle, mais finalement on en oublie votre fonction qui est de nous livrer une recette épatante pour le dîner et cette semaine. La thématique, c'est les desserts.
Bon, je vous donne un indice. Si je vous dis Proust, vous me répondez...
La madeleine. Oh, bah, quelle culture. Mais parfois, je m'éblouis moi-même.
Incroyable. Alors,
il
des
va
madeleines...
Faire des
non, on va faire des madeleines d'une gourmandise extrême et d'une simplicité déroutante, figurez-vous. Mmh. Alors, pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire des madeleines? 200 g de farine, un sachet de levure, 100 g de beurre, 50 cl de lait et 3 œufs. Alors ça, c'est pour des madeleines de base neutre, on va dire. Mais ce qui est sympa, c'est de leur donner un petit twist, de les aromatiser. Alors, pourquoi pas avec un peu de vanille ou avec la fleur d'oranger, avec des pépites de chocolat ou avec du miel. À vous de jouer. Alors, pour confectionner les madeleines, on va réunir les œufs et le sucre qu'on va bien mélanger ensemble. Il faut que l'ensemble blanchisse. Et ensuite, on va faire fondre le beurre. Et là, il y a une astuce, figurez-vous, qu'on ne vous livre jamais dans aucun bouquin ou dans aucune recette sur Internet, mais qu'un pâtissier un jour m'a donné sous le sceau du secret. Alors, en fait, quand vous faites fondre votre beurre, il faut l'assécher, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'eau, en fait, dans le beurre. Et quand vous le faites fondre, vous voyez, il y a des espèces de petites bulles qui se développent, et ça indique la présence d'eau. Et donc, il faut faire fondre le beurre lentement et longuement de manière à le débarrasser au maximum de cette eau qui a tendance, une fois qu'elle était incorporée dans la préparation, à donner des madeleines qui sont moins aériennes. Donc attention à ne pas monter trop en température parce que vous faites brûler le beurre, mais à donc bien prendre le temps de faire fondre votre beurre. Et quand il n'y a plus de petites bulles, il est prêt. Vous allez donc rajouter à vos œufs et à votre sucre la farine, la levure et le beurre fondu, bien sûr. Vous avez ce qu'on appelle un appareil. Vous le laissez reposer 10-15 minutes et ensuite vous le mettez dans des petits moules à madeleine. Cuisson, attention, four à 240 degrés à chaleur.
Ouh, tournante.
Et voilà, pendant 5 minutes. Ensuite, on baisse le four à 200 et on laisse les madeleines encore 10 minutes. Elles doivent être bien dorées. Et alors moi, ce que je fais...
Vous ouvrez une petite bouteille.
Ah bon, ça c'est déjà fait depuis longtemps. Mais je fais fondre du chocolat et ensuite je trempe le dos de mes madeleines dans le chocolat.
Et ça fait les madeleines au chocolat avec la pellicule de chocolat.
Voilà, et ensuite je laisse refroidir. Et alors le chocolat croquant, la madeleine moelleuse à l'intérieur, je peux en manger un seau.
Ben d'accord.
Un seau. Vous nous enverrez des photos de votre ligne, enfin avant après le confinement, ça va vraiment être très impressionnant. Merci beaucoup Olivier. À demain Olivier Pouls.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Interruption des programmes. This is CNN Breaking News. Car tout à l'heure, Eva nous parlait d'une anecdote qu'elle ne m'avait jamais racontée.
Mais ça m'étonne que je ne vous ai jamais raconté ça.
Même hors antenne. Ouais. On savait déjà ses capacités...
À courir vite. Hein.
Courir vite, à battre même Marie-Josée Pérec, on peut le dire. Ça, c'est une anecdote que vous nous avez racontée. Mais nous ne connaissions pas cette anecdote. Une anecdote qui nous entraîne très loin, dans la savane africaine.
Oui. Exactement.
Car Eva Rock a fait un sprint avec un hippopotame.
Enfin, avec, non.
Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, Eva, parce qu'on a du mal
non,
à croire.
Non, je vous assure, c'est vrai. C'est on est dans une réserve au Burkina Faso. Quand je dis on, je suis avec mes sœurs qui sont elles-mêmes avec leurs conjoints respectifs. Et on est encadré évidemment par deux guides pour faire la visite de cette réserve africaine. Non, mais ne riez pas, je vous assure. Et donc, depuis le début de la journée, ils nous expliquent quand même que l'animal le plus dangereux, c'est l'hippopotame. Donc,
ça,
on va s'approcher des hippopotames, mais il faut faire hyper gaffe. Et donc, on arrive effectivement à un point d'eau où on les voit, vous savez, il y a les deux petites oreilles là qui sortent de l'eau. Et donc, on les regarde tranquillement. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, est-ce que c'est un des guides ou quoi qui a peut-être voulu nous faire rire, ou enfin, j'en sais rien, ou nous faire peur en l'occurrence. Il y a eu un bruit qui fait que d'un coup, l'hippopotame est sorti de l'eau. Et il nous avait dit surtout, vous courez, parce qu'en fait, ça court très très vite. Quand
surtout,
ça sort
vous courez,
de l'eau.
Il avait dit
ouais.
Mais vous ne courez pas aussi vite que l'hippopotame, ça court à 70 km/h.
Mais donc, oui, ça court très vite un hippopotame. Mais justement, donc quand il est sorti de l'eau, on a eu mais la trouille de notre vie. Et alors là, je peux vous dire que l'instinct humain qui se réveille, c'est-à-dire que personne ne s'est occupé des autres. C'est chacun a couru.
Chacun sa merde.
Ah ben chacun sa merde.
On a vos sœurs, là, les autres.
Mes sœurs, elles étaient derrière. On a couru, mais tout droit. C'est-à-dire que vous cherchez même pas à savoir où vous allez, ce qui est complètement stupide. Et mais on a eu vraiment très très
peur. Comment ça s'est terminé ?
Entre-temps, en fait, comme quand il était sorti, un des guides avait tiré un coup de feu en l'air pour effrayer l'hippopotame. Mais nous, on n'a pas regardé pour savoir s'il nous suivait ou pas. Hein. Et juste pour la petite histoire, sachez quand même qu'un de mes beaux-frères, lui, était resté sur son rocher en train de faire une photo tranquillement. Et donc, il a la photo de l'hippopotame en train de sortir de l'eau et nous courser.
Non.
Et il est resté stoïque. J'ai jamais compris comment il avait fait.
Mais je veux cette photo,
on va vous l'amener.
La France veut voir cette
photo. Quelle rigolade.
Vous courez.
Non, mais on a ri après, mais pas sur le coup, je vous assure. C'est hyper effrayant.
Il a fini par s'arrêter.
Eh ben, je pense, hein, parce qu'en tout cas, nous, on a couru. Hein. On n'a pas cherché à comprendre.
Et la morale de cette histoire, c'est que vous courez plus vite que Marie-Josée Pérec et
mais
plus vite qu'un hippopotame lancé au grand galop, si tant est qu'un hippopotame parte au galop. Je ne sais pas si on dit ça.
Bah, je sais pas non plus. Hein.
Très belle anecdote,
oh
Eva.
Là.
Vous remontez dans mon estime.
C'est
encore.
Vrai.
Ah, j'avoue que c'est encore plus fort que mon anecdote avec le requin.
Mais j'ai eu très peur, hein, je peux vous dire.
Quels aventuriers.
Vous voulez un petit choix pour les enfants quand même.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, parce que c'est vrai que les enfants sont toujours dans nos pattes.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'on leur propose ?
Je leur propose un dessin animé pour à partir de 8 ans, je dirais. C'est une séance de rattrapage gratuite sur Gulli. Vous allez découvrir un film d'animation qui est très drôle, qui s'appelle Un prince trop charmant. Alors vous savez, le prince charmant, c'est celui qui, dès qu'il sourit, il va faire craquer toutes les filles. Et alors d'ailleurs, il se prépare pour son mariage, ce prince charmant. Il est face à un peintre qui dessine son portrait.
Concentrez-vous, c'est pour votre portrait de mariage. Faites-moi le sourire d'un homme amoureux.
L'amour ? Si seulement je savais ce que c'est.
Et votre fiancée, vous l'avez rencontrée comment ?
Oh oui, c'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. On parle de quelle princesse, au fait ?
Eh ben oui, parce que notre prince charmant, à force de sourire à tout le monde, il sait pas qui il va devoir épouser. Parce qu'il a séduit Cendrillon, il a séduit Blanche-Neige,
il
a séduit la Belle au bois dormant, voilà. Et donc, il faut qu'il choisisse quand même. Mais il va devoir choisir une femme sans jamais avoir été amoureux. Jusqu'au jour où Lénie, c'est une fille un peu garçon manqué, un peu bandit, qui va croiser son chemin, et qui va peut-être lui faire découvrir l'amour, voilà. Comment réaliser un film d'animation sur les contes de fées en les démontant, tout en conservant les codes et au final raconter un nouveau conte de fées? Ben, c'était le pari de ce film d'animation très malin et très drôle. Bon, c'est loin d'être de la qualité d'un Pixar, mais quand même, Un prince trop charmant vous amusera, vous et vos enfants, sans aucun doute. Et j'avoue avoir ri très fort en découvrant quelques passages chantés façon comédie musicale sirupeuse. Je soupçonne le réalisateur de se moquer vraiment très très fort de ce genre. C'est à voir encore pendant 2 jours sur Gulli.fr.
Et si jamais, parmi vous, chers auditeurs, se cache Un prince charmant, 39-21, car je rappelle que le cœur d'Eva, entre autres, est toujours à prendre.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage.
À suivre le nouveau Vianney, puis on va retrouver Mathieu Noël, Eva Roch et Jean-Philippe Ballas dans un instant, qui a choisi cette semaine de nous parler de l'animateur star Jimmy Fallon.
L'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Roch, et à présent Jean-Philippe Ballas, qui est revenu cette semaine sur les numéros de Jimmy Fallon, hein, l'animateur star américain. C'était ce mercredi sur Europe 1 et il a d'ailleurs même gagné avec cette chronique.
Souvent imité, jamais égalé.
C'est vous ?
Non, c'est Jimmy Fallon. Son late show fait un carton année après année, Eva, pour nous parler de ce phénomène de l'infotainment, ce showman qui ne laisse rien au hasard, un journaliste qui justement fait preuve lui aussi d'un grand perfectionnisme. Un pro méticuleux qui peut passer 10 minutes rien qu'à trouver le bon ton pour son oui. Car oui, tous les oui ne se valent pas.
5, 4, 2, 1 et puis 0. Oui, et on va re... Oui, et on va revenir. Oui.
Oui, Jean-Philippe Ballas. Oui, vous nous parlez de votre idole, Jimmy Fallon. Oui ou non ?
Oui, Jimmy Fallon, il est un petit peu plus vieux que moi, il a 45 ans. Et donc tous les soirs, il anime le Tonight Show sur NBC. C'est pas un inconnu, il a fait ses armes dans le Saturday Night Live, émission culte pour tous les humoristes américains. Je vais surtout vous parler du musicien, du chanteur qui fait des reprises assez dingue avec le groupe de l'émission The Roots. C'est pas n'importe qui non plus, The Roots. Et voici le dernier tube qu'ils ont repris. Ça circule pas mal sur les réseaux en ce moment. Je précise que la séquence est réalisée en confinement, c'est-à-dire que chaque musicien est chez lui. Je précise qu'il joue avec des ustensiles de cuisine pour l'essentiel, donc des casseroles. Sachez enfin que la version originale est chantée par Freddie Mercury et David Bowie. C'est pas un peu de la balle.
Ah, c'est génial.
Under Pressure, chanson très difficile à apprendre en général. Et c'est pas tout, parce que dans son émission, Jimmy Fallon, il a aussi un groupe vocal, vous les connaissez peut-être, c'est les Ragtime Girls, a cappella. Il a, dans ces circonstances, un canotier et un costume à rayures. sauras-tu reconnaître la star qui les accompagne ?
You don't have to put on that red, red light.
Sting.
Lui-même.
Ah oui, ah, mais j'ai cru que c'était un décalage. Non, c'est Sting qui chante.
Tout ça en profondeur, là, c'est quand même une performance incroyable. Hein.
Ça me fait penser à quelque chose. Je me dis, quand on faisait l'émission en duplex, chacun chez nous, je me disais, on est quand même fort, on arrive quand même à se coordonner, tout ça. Puis ensuite, j'entends ça. Voilà. Et je me dis, mais on était vraiment des brels, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
C'est incroyable.
Est-ce que vous en voulez encore ?
Ah, oui,
encore. Toujours dans le registre a cappella, toujours avec Jimmy Fallon. Alors, ça, c'était il y a quelques années. C'était avec le casting des acteurs de Star Wars, dont Harrison Ford, s'il vous plaît. Et c'est la marche de l'empereur.
C'est génial.
Je pense qu'il y a un petit peu d'autotune, hein, pour que ça soit bien juste.
Parfait, ouais.
Mais c'est quand même très très synchro. Et c'est pas tout, parce que sachez que dans son émission, Jimmy Fallon, il fait aussi des imitations. Par exemple, il sait faire Bob Dylan.
Charles in charge of our days and our nights. Charles in charge of our wrongs and our rights.
Et visuellement, c'est aussi impressionnant. Il joue même de l'harmonica, hein. Vous allez peut-être l'entendre derrière moi. Il fait aussi Jim Morrison avec les Doors.
Butterfly in the sky. I can go twice as high.
Alors là, pour le coup, il a les cheveux longs et puis le petit jean en cuir qui va bien. On va monter un petit peu en grade dans la dinguerie, parce que parfois, il chante aussi dans le métro. Dans le métro new-yorkais, et puis il emmène des groupes avec lui pour jouer incognito dans le métro. Alors, pour ceux qui ont des doutes, c'est bien la voix de Bono et c'est bien U2
qui est dans le métro.
Ah oui,
qui l'a embarqué dans le métro pour faire la manche. Alors, au début, ils sont grimés et puis les gens s'arrêtent, les gens les reconnaissent et puis ils enlèvent leurs moustaches, leurs casquettes et les gens se retrouvent nez à nez dans le métro new-yorkais avec U2. C'est quand même quelque chose. On va continuer le feu d'artifice, parce que parmi ses invités, Jimmy Fallon, il a fait aussi jammer parfois des personnalités, mais alors de tout premier plan, genre le prédécesseur de Donald Trump.
It's been an honor and a privilege to serve as your president over the past 8 years.
Et c'est Barack Obama
qui se prête au jeu de Jimmy Fallon,
qui veut slack jammer avec Jimmy Fallon et son groupe The Roots. Enfin, le bouquet final, on va terminer avec la séquence qui est la plus chère à mon cœur, parce que dans son émission, il y a eu aussi un certain Paul McCartney, Jimmy Fallon. Alors, Paul McCartney qui avait écrit il y a quelques années Yesterday. Alors, ce qu'on sait un peu moins, c'est que la version originale de Yesterday, le premier texte,
oui, c'était pas Yesterday.
C'était Scrambled Eggs, œufs brouillés. Bébé, j'adore tes jambes, mais je préfère les œufs brouillés. Sauf qu'on l'a jamais entendu, cette version originelle de Yesterday. Eh ben, Jimmy Fallon l'a fait dans son émission avec Paul McCartney.
Scrambled eggs. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs.
Et alors, je peux vous dire que quand on est fan des Beatles,
ah oui,
c'est une drôle d'émotion quand même d'écouter cette version-là.
Et dites-moi, Jean-Philippe, il était un peu préparé pour le confinement, notre ami Fallon, parce que ça fait très longtemps qu'il faisait déjà les trucs chez lui avec les casseroles.
Même avec des instruments de classe, des instruments de musique, des petits xylophones. C'est vrai qu'il est assez rompu à l'exercice. Là, quand même, en quelques minutes, vous avez écouté U2, vous avez écouté Barack Obama, vous avez écouté Sting, et vous avez écouté même la voix de Bob Dylan et celle de Jim Morrison.
Et puis, alors, si je peux me permettre, il est hilarant, Jimmy Fallon, en ce moment, parce qu'en période de confinement, donc il est chez lui, mais il y a sa femme et ses deux filles qui participent à l'émission tous les jours, et elles ont autant d'humour que lui, et c'est peu dire quand même. Hein.
C'est très drôle parce qu'il fait ses petits sketchs d'intro avec ses filles, dont il a un combi dans le jardin, un combi Volkswagen, donc il fait des vannes qui sont assez drôles, sauf que ses gamines ne rient pas
du tout.
Chers auditeurs, parfois on a des journalistes qui portent des sujets, on sent qu'ils s'en foutent, ils sont là pour faire le job, là on déborde complètement cette séquence parce que Jean-Philippe est tellement fan de Jimmy Fallon qui pourrait vous en parler jusqu'au dîner. Jean-Philippe, ça suffit. Merci beaucoup. C'était une belle chronique.
J'ai l'impression que cette expérience vous a un peu transformé.
N'exagérez pas non plus.
16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
L'équipée sauvage, c'est une compétition. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 bataillent à coups de chronique. Mais l'équipée sauvage, c'est aussi un rendez-vous téléphonique avec une personnalité en attendant la fin définitive du déconfinement.
Chaque jour, vous le savez, on prend des nouvelles d'une personnalité qu'on aime, aujourd'hui une artiste qui n'aime pas trop qu'on la présente comme une icône. Je la cite, une icône, je suis allé vérifier dans le dictionnaire, image figée, dorée, ça ne me va pas trop, je préférerais irrésistible, j'assumerais mieux. Alors Eva, accueillons tout de suite l'irrésistible d'Annie.
Je sens les bons et les bons.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dany. Bonjour.
Bonjour.
On pensait à vous hier en diffusant ce célèbre duo avec Étienne Dao comme un boomerang.
Oui.
Vous avez plein de projets dans les prochains mois. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ce titre comme un boomerang qu'on connaît tous, mais on connaît pas tous l'histoire de cette chanson. Moi-même, je l'ai découverte en travaillant sur cette émission. C'est une chanson avec Étienne Dao en 2001, mais elle est en fait bien plus ancienne que ça.
Alors c'est une chanson que Serge Gainsbourg avait écrite pour moi pour l'Eurovision en 75, et le jury à l'époque qui faisait la sélection des chansons pour représenter la France a trouvé qu'elle était un peu agressive, parce que ça parlait de flingue, il y avait des mots exsangues. Bon, ça leur a pas plu, donc Serge était fou de rage. Moi, ça m'a pas trop gêné, parce que de faire un concours, c'est très difficile, 3 minutes pour défendre quelque chose, et c'est un challenge, comme on dit. Et cette chanson est restée sur une étagère dans la maison de disques Vogue et tout ça. Et puis au fil du temps, Étienne me dit, mais pourquoi tu chantes plus? J'ai dit, écoute, j'ai pas de chanson. Voilà, j'étais sorti un peu du circuit pour d'autres raisons. Il me dit, ben là, il faut que tu chantes. Et il a été rechercher cette chanson.
Mais il la connaissait, lui? Ou en faisant des recherches, il l'a trouvée?
À Étienne, je lui donne toutes les choses. D'accord. Que j'avais fait. Okay. Il adore écouter et tout ça. Et il dit, bon, voilà, tu vas la refaire. Donc, je vais la produire, la chanson et tout ça. Donc, on commence à travailler. Tout, quand on est au studio, je lui dis, fais-moi une voix lead quand même, parce qu'il avait fait... Il était très... il avait fait des arrangements très proches de ceux de Serge, avec Jean-Pierre Sabar, le pianiste, et quand même avec un son d'aujourd'hui, quoi. Enfin, il y a 20 ans, je ne sais pas, il y a combien de temps qu'elle est sortie? En 2001.
Voilà. 2001, ouais. Ça fait bientôt 20 ans.
Ouais. Et quand on fait le mix, le monsieur qui est à la manette, d'un seul coup, il monte la voix d'Étienne, et tout le monde dit, mais ça, c'est un duo. Voilà comment est arrivé ce duo. C'est une magnifique chanson, c'est fameuse histoire des chansons. Ouais.
Ils avaient eu du pif, le jury de l'Eurovision.
Oui.
Hein. On peut les embrasser rétrospectivement.
Je vous le fais très bien.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Dany qui nous accompagne cet après-midi. Unique, une personnalité qui l'est tout autant. Je crois, Dany, que vous avez profité de cette période de confinement pour avancer sur différents projets que nous pourrons découvrir à la rentrée ou en début d'année prochaine. Je ne sais pas si les choses ont été décalées à cause de ce qu'on vit actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur l'album, prochain album qui s'intitule Horizon Doré?
Voilà, c'est un album qu'on a fini fin décembre. Donc voilà, il va sortir quand on pourra le sortir. Autrement, c'est Horizon Doré. Oui, j'espère qu'il va y en avoir pour tout le monde.
Ah oui, c'était un titre très prémonitoire.
Et oui, mais on l'a pas fait exprès. Hein, ouais. C'est la chanson qui s'appelle comme ça. Et puis on va faire des spectacles aussi, du concert. Voilà, des concerts avec un peu de lecture de femmes qui ont écrit, qui m'ont impressionné dans ma vie.
Cet album est très secret, on n'a pas d'extrait encore disponible. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Joe Starr, il est sur cet album, c'est bien ça?
Oui, on a fait un duo avec une chanson qui s'appelle Casta, Casta Par, et Didier, Joe Starr, donc. C'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps et que j'aime beaucoup, malgré ses excès de foi de rébellion, mais j'aime bien des gens rebelles et un peu... Voilà. Et il a beaucoup aimé cette chanson, et quand je lui ai proposé de venir la chanter avec moi, il a dit oui, on s'est bien marré.
Excuse-moi, Dany, comment vous avez rencontré Joe Starr? Comment s'est faite la rencontre?
Oh, il y a très longtemps, à Montreuil, quand il commençait à chanter.
Ah oui?
Voilà. Après, j'ai un peu suivi, je l'ai suivi, bien sûr, et puis après, je suis allée le voir, les discours de l'Assemblée. Oui. Il était absolument magnifique. Je trouve qu'au cinéma, il impressionne la pellicule aussi, que c'est un acteur et un artiste et un être super.
Même s'il pince magnifique. Très fort, moi, il me pince à chaque fois que je l'ai face à moi en interview. Il me prend le bras et il me pince parce qu'il veut me faire rire ou me faire mal, je ne sais pas, mais en tout cas,
moi,
voilà. Mais je l'aime quand même. Vous avez un point commun.
Il est génial.
Dany, vous avez un point commun avec Joe Starr, et vous êtes deux grands artistes, mais vous avez surtout, je trouve, le plus fort point commun, c'est ce goût de la liberté. On ne peut pas vous faire entrer dans des cases. Vous avez chacun creusé votre sillon. On a l'impression que beaucoup de gens autour de nous dans la vie passent leur temps à essayer de cocher des cases. Vous, c'est tout l'inverse, Dany, en fait. Votre vie, c'est.
non, ça, je coche pas de case. Moi, j'essaie de continuer à rêver. J'essaie de retrouver une liberté. Je rêve d'embrasser, de serrer dans mes bras beaucoup de monde. Mmh. Je rêve que les chèques arrivent bientôt dans tous les hôpitaux et tous les infirmières et tout ça. Je rêve que de ça. Après, voilà, la musique, ça m'a beaucoup aidé pendant ce confinement. Et voilà, c'est un truc très simple, il faut continuer à rêver, quoi, à la liberté.
Elle continue à rêver, son nouvel album arrive à la rentrée. Dany et notre équipier sauvage cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipier sauvage.
Tout de suite Eva, c'est l'heure du mix.
Oui, avec Sébastien Bordonnave, on adore se perdre sur les réseaux sociaux pour y dénicher des extraits drôles et décalés, comme l'humoriste Sandrine Saroche sur Paris Première qui chante le déconfinement. Sur la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout, il y est question des femmes. Et quant à Louis Chédid, il fait tout comme son fils Mathieu, un petit concert depuis chez lui. Et je vous propose de commencer avec Lison Daniel, c'est le nouveau phénomène Instagram. Elle campe une Parisienne plus vraie que nature qui rêve de devenir actrice.
Bah sinon meuf, ouais moi je me suis relevé les cheveux là. Ça change en vrai, j'ai un petit front pas mal. Tu savais que Nathalie Portman elle fait des masterclass sur internet? Par contre ça m'a fait trop bader, elle dit règle numéro 1 pour être actrice c'est avoir de l'empathie. J'ai là genre, tant il y a plusieurs courants d'acting et moi je peux être dans celui où l'empathie on s'en branle en fait, tu vois ou pas?
Statistique, 9 aides-soignants sur 10, c'est des femmes. 87% des infirmiers, c'est des femmes. 97,7% des aides à domicile, des aides ménagers et des assistants maternels, c'est des femmes.
En gros, la plupart des postes qui te permettent de rester civilisé pour pouvoir continuer de détruire la planète, c'est des femmes.
Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondue enchaînée sur la cour d'une école.
La douce voix de Louis Chédid pour finir ce mix concocté par Sébastien Bordonnave.
Quand le chef du service économie et sociale d'Europe 1 affronte le chef du service Chipo et Merguez, forcément, ça va chauffer.
L'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et Varoc et notre vétérinaire Farah Kessri. Avec elle, nous irons à la découverte des chiens renifleurs du Covid. Nous prendrons aussi des nouvelles de la chanteuse et animatrice Marianne James. On s'intéressera à cette histoire incroyable de chèque de Donald Trump qui a reçu une bordelaise, et c'est pas un canular. Et puis, on s'intéressera également à ce drive-in au sommet des Vosges pour bénéficier d'un repas concocté par une ferme auberge. Alors à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
L'équipée sauvage, seconde partie, revivez les moments les plus sympas, les moments phares de ces 8 derniers jours. Semaine qui va du vendredi 15 au jeudi 21 mai avec Mathieu Noël et Varoc, sa complice bien sûr. Nos journalistes compétiteurs motivés pour décrocher le titre de chroniqueur du jour avec des sujets captivants, étonnants. Et d'ici à 18h, eh bien, on mettra un coup de projecteur sur un drive-in au sommet des montagnes vosgiennes, sur les nouvelles techniques des applis de rencontre, sur l'histoire incroyable d'une bordelaise qui reçoit un chèque de 1 200 $ signé Donald Trump. Et ce n'est pas un canular. Et pour commencer, eh bien, nous partons à la découverte des chiens renifleurs de Covid.
Sur le papier, l'idée est assez géniale. Confier à des chiens dressés pour ça le soin de détecter dans la rue les personnes atteintes, parfois sans le savoir, du Covid-19. Certains pays le font, mais le problème, c'est le parfum. Si par exemple le chien couvre un secteur où a évolué Eva Rock.
Voilà, un peu de fraîcheur à l'antenne.
Eva qui a tendance à abuser de son nouveau parfum, Sirocco d'Anchoyade. Eh ben, va renifler le Covid dans un tel bordel olfactif. Les chiens renifleurs de Covid, est-ce que ça marche en vrai? C'est la question que vous vous êtes posée, Farah Kessri.
Vous auriez pu dire Mistral plutôt que Sirocco. Hein.
C'est vrai, Mistral d'Anchoyade, c'est encore plus violent. Farah, parlons sérieusement de ces chiens renifleurs de Covid.
Oui, bah en fait, je pense qu'ils pourraient même détecter n'importe quelle odeur. Hein. Vous savez que les chiens ont une super bibliothèque au niveau du cerveau pour détecter différentes odeurs. Donc même le parfum d'Eva, ils pourraient passer au travers sans problème.
Ah ouais.
Donc... concernant ses recherches actuellement sur des chiens renifleurs pour dépister le Covid. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir dépister de façon plus rapide, plus simple et surtout dans des endroits où il y aurait beaucoup de monde, comme par exemple les gares, les aéroports et pourquoi pas dans les centres commerciaux. Et l'une des équipes qui justement avance pas mal sur ces recherches, elle est française et c'est un vétérinaire, le docteur Dominique Grandjean, qui est professeur à l'École nationale d'Alfort, chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il encadre l'entraînement d'une dizaine de chiens de la brigade sur différents sites. Et le but, bien sûr, c'est apprendre aux chiens à identifier des patients atteints de Covid-19 grâce à leur odorat exceptionnel. Et je vous rappelle que la muqueuse nasale des chiens, eh bien, elle comporte, selon les races, entre 150 millions et 300 millions de cellules.
Et nous,
infectives.
On en a combien?
Nous, c'est à peine 10 millions.
Ah oui,
donc c'est très peu. Même la taille de leur muqueuse et nous, la nôtre, elle mesure à peine, je sais pas moi, à peu près celle d'un timbre-poste, alors que la leur, c'est environ 200 cm². Vous voyez, c'est vraiment...
Ah oui, ils sont vraiment avantagés.
Absolument. Oui. Ils ont quand même le nez assez long, hein, puisque c'est une longue truffe. Nous, on a un petit nez court, donc c'est aussi pour ça.
Ça dépend. Moi, je devrais avoir un bon odorat, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Hein. J'ai pas un très bon odorat.
Oui,
moi.
Mais par rapport à un chien, il reste quand même assez petit.
Effectivement.
Tout est relatif dans la vie, vous voyez.
Oui, voilà, c'est ça, absolument. Donc, ce qu'il fait, c'est que les chiens voient le monde qui les entoure à travers leur nez, plus qu'à travers leurs yeux. Il faut vraiment imaginer qu'ils détectent tout par l'odeur.
Et alors, les chiens, on le sait, détectent les patients atteints de cancer, mais avec une maladie virale, c'est la même chose? Le virus a une odeur?
Alors non, c'est pas le virus qui a une odeur. Alors il faut savoir que par exemple, dans le cas d'un cancer, c'est la cellule malade qui va libérer les molécules odorantes. Dans le cas d'une maladie virale, c'est le virus qui provoque des réactions chimiques qui vont libérer des molécules odorantes de la part de nos cellules de défense en particulier. Et ces molécules qui ont un marquage olfactif vont être éliminées dans différentes sécrétions. Ça peut être les larmes, la salive, les urines ou la sueur. Et pour le Covid-19, il fallait déjà savoir si c'était la même chose. Donc la première étape, ça a été de voir si on avait vraiment des molécules odorantes dans différentes sécrétions et si on pouvait en trouver quand même dans celle qui est l'une des plus simples, c'est-à-dire dans la sueur, parce que la sueur c'est quand même plus facile à les récolter que, excusez-moi, le sperme, parce que même dans le sperme, vous savez,
ça dépend pour qui,
avez des traces du Covid.
Oh Mathieu.
Pardon Eva, parce que là j'ai lancé évidemment un regard perfide à Eva, c'était vraiment du meilleur goût. Est-ce que c'est compliqué d'entraîner un chien à reconnaître une maladie virale? Ça doit prendre du temps, enfin.
En fait non. Pas tant que ça, parce qu'il faut savoir que c'est pas le chien de votre voisin qui va être entraîné, c'est vraiment des super champions de l'olfaction. Les chiens de la brigade sont déjà habitués à renifler des odeurs de stupéfiants, ils ont l'habitude de rechercher des explosifs, c'est parfois plus de 40 odeurs différentes qu'ils ont l'habitude de repérer. Alors la question qui s'était posée, c'est que est-ce que quand même les chiens étaient capables de détecter une maladie virale. Et là, ça a été prouvé il y a déjà 4 ans environ par une équipe américaine qui a réussi à prouver que les chiens étaient capables de détecter les vaches qui étaient malades, qui étaient atteintes d'une maladie particulière qu'on appelle la maladie des muqueuses. C'est une maladie virale extrêmement contagieuse qui provoque des grandes pertes économiques. Et justement, quand ils ont pu prouver que les chiens pouvaient vraiment repérer le virus, en tout cas la présence du virus, ils se sont dit ben banco, il faut vraiment qu'on teste ça sur le Covid-19. Et Dominique Grandjean est vraiment satisfait par les premiers résultats parce que apparemment, selon lui, il a suffi d'une semaine pour que les premiers chiens puissent réellement détecter la sueur qui était plutôt positive. Alors la technique, elle est assez simple, hein. Vous savez, vous placez des compresses sous les aisselles des patients Covid, vous récupérez ainsi la sueur et vous enfermez cette compresse dans des tubes pour emprisonner l'odeur. C'est des tubes avec un filtre. Après, vous les placez dans des bacs. Alors, certains comportent des compresses, des tubes provenant de personnes qui sont Covid+, et d'autres qui sont plutôt Covid négatifs, donc qui ne sont pas malades. Et vous voyez la réaction du chien. Si le chien s'assoit
devant la caisse qui contient le tube Covid+, eh bien là, on dit qu'il a marqué la bonne odeur. Mmh. Et c'est ainsi, sur une semaine, que l'entraînement se déroule. Et apparemment, les chiens arrivent vraiment à reconnaître les bons tests, les bons prélèvements.
Et mais Eva, si jamais un chien dans la rue s'arrête à côté de vous et commence à vous renifler, comment vous allez réagir?
On sent pas le cul des gens.
C'est vrai qu'en France, on a cette éducation des chiens normalement. Mais enfin bon, là, si c'est pour la bonne cause, on est peut-être d'accord. Merci beaucoup, Farah Kasri, pour toutes vos explications.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Marianne James a réussi à ne pas prendre de poids pendant le confinement, allant même jusqu'à perdre 5 kilos, comme elle l'a confié au micro de Mathieu Noël ce lundi sur Europe 1, alors que les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos sur la balance. Et puis elle en a profité aussi pour nous parler de cette émission spéciale de la France à un incroyable talent sur M6, diffusée le soir même.
Oui. Et Marianne James. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Ce soir sur M6 à 21h05, un numéro exceptionnel de la France à un incroyable talent. Les 25 moments inoubliables. Un numéro exceptionnel pour ce qu'on y voit, mais aussi par la manière dont il a été enregistré, puisque vous l'avez enregistré pendant le confinement. Donc, chaque membre du jury chez soi.
Oui, à Montélimar, un peu charrette. J'étais dans une peignoire remplie de nougat chaud. Je me suis roulée dans les amandes et les pistaches, n'est-ce pas? Mais en toute simplicité, mes amis.
Bien sûr, toujours. Ah, vous n'avez pas changé, Marianne. Il a pas dû être triste le confinement avec vous, hein.
Non, il n'a pas été triste. Et vous savez quoi? Vous êtes assis tous les deux.
Ah, oui. C'est bien, oui.
J'ai perdu 5 kilos.
Mais non.
Pendant le confinement, alors que moi j'en ai gagné 5. C'est incroyable. Voilà. Ils sont arrivés directement dans mon ventre.
Moi, quand j'ai vu arriver le confinement, j'ai vu arriver les clous du cercueil avec. Je me suis dit, oulala, je vais prendre 14 kilos. Je suis sûre, gourmande comme je suis. J'ai dit non. Eh ben, c'est le moment. J'ai perdu 5 kilos. Et victoire ou pas?
Mais en faisant beaucoup d'efforts ou voilà, comme ça?
Elle va être très intéressée. Là.
Non, mais c'est vrai. Attends.
Non, mais j'ai assuré 100% de mes repas au lieu d'aller au restaurant, etc. Et de manger après le spectacle qu'on joue plus. C'est-à-dire, déjà, j'ai retrouvé une vie, je dirais, normale. Oh mon Dieu. Et non, j'ai mangé mes fameux 14 légumes tous les jours. Je suis heureuse de ça. Les gens s'en foutent. Hein, j'imagine que tout le monde s'en fout là.
Ah, pas du tout, parce que justement, après, nous allons parler de l'émission et on va parler effectivement du nouveau régime Marianne James qui va arriver. Il y aura peut-être un livre qui va sortir. Marianne, il faut y penser.
L'équipe est sauvage.
C'est donc Marianne James qui nous accompagne cet après-midi. Alors Marianne, ce soir sur M6, 21h05, les 25 plus grands moments de la France à un incroyable talent. On rappelle que vous êtes membre du jury. Est-ce que vous-même, évidemment vous êtes une pro, vous êtes dans le jury, mais est-ce que vous avez parfois été vraiment tellement bluffé que ça vous a étonné de voir ça, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des numéros qui vous ont marqué?
Il y a deux niveaux de stupéfaction dans cette émission. Oui. La diversité déjà, contrairement à, par exemple à Nouvelle Star, où j'étais jurée aussi, où quand même on s'attendait à des chanteurs et peut-être aussi des chanteurs. Là, vraiment, ce qui est vraiment bluffant quand vous le vivez en temps réel, les auditions notamment, c'est la diversité. La petite grand-mère qui fait du hula hoop en tricotant. Ou bien évidemment, les quatre Biélorusses qui plantent des clous avec leur front. Vous voyez ce que je veux dire?
On est vraiment très ouvert.
Deux autres aussi stupéfactions, ceux qui se prennent pour des génies et qui sont des escrocs. Donc, on est stupéfait du niveau de... Alors, c'est pas l'arrogance du tout, je dirais de folie. Ils viennent avec des numéros, on se dit mais c'est pas possible, ils nous prennent pour des dingues. Et après, bien évidemment, la dernière et la plus belle stupéfaction, c'est celle du talent pur. C'est-à-dire que là, vous regardez, on est en suspension. Là, on a tous 4 ans et demi de moyenne d'âge. Ça y est, on ne juge plus d'ailleurs. On n'est plus dans le jugement, on n'est même plus dans la bienveillance, on est complètement transporté par eux. Et bien, une émission qui vous... Excusez-moi, je vous le vends bien, mais une émission qui vous propose tous ces niveaux de stupéfaction et de lecture, il n'y en a pas beaucoup. C'est bien pour ça que je leur ai dit oui.
Marianne James, est-ce qu'il y a un arc qui vous sensibilise plus, qui vous émeut plus que les autres?
Auquel vous êtes plus sensible, parce qu'un arc qui vous sensibilise, c'est une question qui n'a pas de sens.
Celui que je ne connaissais pas, mais c'est tout ce qui est le main à main, tous les gens suspendus, les acrobates, vraiment, ceux qui vraiment prennent des risques, bien évidemment avec des plastiques absolument superbes, hein. Mais au-delà de ça, ils font des numéros, généralement ce sont des couples, parce qu'ils sont très proches, à force de se contorsionner dans tous les sens. Pour peu qu'ils choisissent la bonne musique, la bonne scénographie, c'est-à-dire les bonnes lumières, qu'ils y rajoutent un peu, je dirais, l'anti-cirque, quand ils vous font oublier d'où est la racine, pas du mal, mais de leur travail, et que vraiment ils font des mains à main où ils se projettent, il y a même plus de dimension. Et là, j'ai vraiment me faire oublier toutes mes certitudes. Là, on est vraiment bluffé. Ça me bluffe encore. Et certains magiciens, j'étais pas trop sur la magie. Et c'est pas tant Éric Antoine qui m'a converti, bien sûr, j'adore ce garçon.
Vous, vous le trouvez nul, mais les autres.
Non, le mec est adorable. Non, il a rien fait pour ça. Il nous impose. Non, il nous impose pas ça. Il ne nous impose rien du tout, Éric. Il a beaucoup de caractère. Et c'est vrai que c'est le patron du jury. Vraiment, on le sent parce qu'il en a vraiment les moyens. Non, il nous a fait comprendre vraiment qu'est-ce que c'était que la magie. Et c'est de l'escamotage, en fin de compte. Et c'est juste assez génial de se faire avoir par eux, en fin de compte. Et j'ai commencé à découvrir la magie aussi par cette émission.
Et Marianne, entre nous, bon, vous vendez très bien l'émission, mais si vous avez accepté l'émission, c'est pas pour tous ces talents, c'est surtout pour le talent plastique de David Ginola.
Alors, oui, voilà. Je suis désolée, maintenant j'arrête avec mon verbe, c'est bon, ouais.
Vous avez fait
c'est
le
pour
job.
Les pectoraux de David, bien évidemment.
C'est ce que je voulais entendre. Les plus grands moments de la France, un incroyable talent, c'est ce soir sur M6. Marianne James fait un petit bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Imaginez-vous recevoir un chèque signé de la main de Donald Trump. C'est pourtant ce qui est arrivé à une jeune diplômée de journalisme originaire de Bordeaux. Explication avec Mathieu Noël, Eva Roque et Stéphane Place. C'était le vendredi 15 mai, ce vendredi 15 mai sur Europe 1.
Une rumeur infâme s'est propagée dernièrement selon laquelle l'équipe sauvage, la grande compète opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, serait pipotée. Tout est parti d'une déclaration d'un invité, Laurent Deutsch, accusant un de nos journalistes de lui avoir proposé un pot de vin afin qu'il vote pour lui.
Nicolas Chiron. Alors lui, il a essayé de m'acheter, Nicolas, déjà.
C'était bien sûr totalement faux, aussi infondé que la rumeur concernant Mathieu Charrier et Stéphane Place, qui auraient même poussé la magouille jusqu'à surenchérir dans le pot de vin au moment d'un quitte ou double.
Tout dépend si vous voulez goûter ou pas ce bon vin que j'ai reçu lors de notre dernier enregistrement.
Ah bah si c'est ça, moi je rajoute une prime de chipot. Hein.
Stéphane Place, rangez vos chipots. On ne mange pas de ce pain-là. Il n'y a que la chronique qui nous intéresse. Oh, justement, aujourd'hui, Stéphane, votre chronique s'annonce aussi savoureuse que vos chipots.
Ah bah je l'espère. En tout cas, elle s'annonce effectivement étonnante. C'est une histoire totalement insolite. On l'a découverte, on va leur tirer un coup de chapeau d'ailleurs dans les colonnes de nos amis du journal Sud-Ouest. L'histoire, elle est très simple. Un beau matin, en plein confinement, cette jeune habitante de l'agglomération bordelaise va relever son courrier, elle ouvre sa boîte aux lettres et là, elle découvre une enveloppe déjà en provenance des États-Unis. Bon, curieux, mais quand elle ouvre l'enveloppe, l'étonnement est encore plus important, plus grand. Salomé Baudelot va vous expliquer ce qu'elle a découvert.
Je trouvais dans ma boîte aux lettres un chèque en provenance directe des États-Unis et signé par le président des États-Unis, donc Donald Trump. Un chèque de 1 200 $. J'ai vécu 6 mois aux États-Unis l'année dernière. J'ai travaillé pour Walt Disney World en tant que vendeuse en boulangerie. Aux yeux de la loi et aux yeux des États-Unis, j'étais contribuable, bien que n'étant pas citoyenne américaine à part entière. Je vais le mettre de côté et ça va me permettre, moi, de partir dès que tout ça sera fini et qu'on aura l'autorisation de partir en voyage.
Alors, comme disaient des proches, étonnant, non ?
Mais en fait, c'est étonnant, oui.
Mathieu, qui hors antenne disait encore l'autre jour, Trump est une pince et tout ça, il expliquait qu'il pouvait avoir des problèmes et il insistait. Bah, là, vous avez la preuve que l'administration américaine, en tout cas, elle est très réglo puisque Salomé vient de l'expliquer. Elle a travaillé aux États-Unis dans un parc Disney à Orlando, en l'occurrence pendant quelques mois. Elle est restée donc de toute évidence dans les fichiers. Et du coup, elle a bénéficié de ce chèque qui, vous le savez, est la conséquence du plan d'aide fédéral débloqué par Trump à l'occasion de cette crise sanitaire majeure qui frappe cruellement aussi les États-Unis.
C'est vraiment étonnant quand on connaît le côté protectionniste de Trump, qu'ils n'aient pas vérifié leur administration, qu'ils n'envoient pas des chèques à des gens qui ne sont pas des ressortissants américains, même s'ils ont travaillé sur le sol américain à un moment. C'est vraiment étonnant.
Ouais, elle est insolite cette histoire. Vous avez entendu cette bordelaise. Elle est elle-même très étonnée. Bon, en tout cas, elle aura l'occasion donc de financer quand elle pourra reprendre l'avion à un voyage peut-être outre-Atlantique pour aller remercier les Américains. Alors 1 200 $. Moi, j'ai moins l'habitude que vous, Mathieu, de calculer par rapport aux devises étrangères, etc.
C'est à peu près pareil, je crois.
Ça fait un peu plus de 1 100 €, quoi.
Oui, c'est ça.
Et alors, j'en profite pour signaler à l'administration américaine que j'ai moi-même travaillé aux États-Unis. C'était au début des années 2000 et que donc, si mes calculs sont bons, parce qu'elle a travaillé un petit moment, moi j'ai travaillé plusieurs mois, je pense que je dois pouvoir avoir dans les 3-4 000. Hein. Ouais. Il faut raquer maintenant, Donald, si tu nous écoutes, si tu écoutes Europe One, send the N'importe fucking quoi. Money, show me the money, merci.
En tout cas, ça explique les velléités de construction de murs depuis de Donald Trump. Il a dû garder un souvenir de votre passage, manifestement. Hein. faut pas que vous reveniez, quoi.
Il a pas encore.
Vous seriez pas moqué un peu de lui, de ses crocs, de sa chevelure.
Un mur avec la Suisse, ça pourrait être une nouvelle idée. Merci Stéphane Place, on vous embrasse, ainsi que votre belle-mère avec qui vous êtes visiblement un peu taquin.
Belle maman, reste au bout de la table, je vais te pointer ou tirer, je sais pas encore.
Oh belle maman.
Jusqu'à 18h, nous sommes avec Mathieu Noël à suivre dans l'équipe Et Sauvage les nouvelles techniques de match des appels de rencontre. En attendant, David Bowie sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe Et Sauvage.
Les meilleurs moments donc avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent Anis Mbida dont on découvre le sujet. De nombreux Français, vous le savez, utilisent les sites de rencontres pour conserver un lien social qui s'est d'ailleurs brisé avec cette période de confinement. Eh bien Anis Mbida s'est intéressé aux nouvelles techniques de match.
C'est une question peut-être encore un peu taboue pour certains novices des applis de rencontres, mais ils se la posent fatalement. Comment maximiser ses matchs ? C'est-à-dire comment faire pour que son profil attire l'attention des autres inscrits ? Y a-t-il des techniques, voire des martingales pour matcher plus ? La phrase de présentation par exemple semble déterminante. Eva Rock a-t-elle eu raison d'opter pour...
Maratatouille, vous avez goûté Maratatouille ?
Pour répondre à cette question, hein. Et peut-être filer un coup de main à Eva, qui d'ailleurs galère un peu sur Marmite Love. Vous en êtes où sur Marmite Love, Eva ?
Ah bah, je ne suis plus allée depuis très longtemps.
Le site de rencontre par affinité culinaire.
Mais c'est-à-dire que les gens qui m'ont inscrit à mon insu sur ce site...
Sexy Soca, c'est ça ?
Oui, Sexy Soca 69, parce que c'était plus rigolo. Donc les gens qui m'ont inscrit à mon insu sur ce site sont en train de revenir, donc le déconfinement étant terminé.
Donc vous allez poster peut-être de nouvelles choses sur ce
mais
site.
C'est
et
pas moi qui poste.
Messages.
On poste à mon insu.
Hein ?
Voilà. Mais ne rigolez pas, Axel. C'est pas
on ne sait jamais, Eva. N'insultez pas. Ne dites jamais Fontaine. Peut-être que cet été.
Oh là là, ça me fait peur cette phrase.
Ben non, mais peut-être que vous allez enfin rencontrer l'amour via ce site.
Ouais.
On ne sait pas. Et il existe mieux aujourd'hui. Anis Mbida nous en parle aujourd'hui. Pareil. Des sites de rencontres, non pas par affinité culinaire, mais par affinité vocale.
Oui, parce que vous avez beau essayer de me faire passer pour un playboy, mais je crois que personne n'aime juger, d'être jugé uniquement sur son physique. non, mais c'est vrai.
Oh non, vous m'emmerdez, Anis. Vous êtes beau comme un dieu, c'est bon, c'est pas
non,
grave.
Mais même si on est beau comme un dieu, même si on est une rockstar, si personne n'aime être jugé sur son physique. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche d'autres techniques pour connecter les gens, pour faire ces fameux matchs. Et celles qui se développent plus en ce moment, bah c'est la voix. Alors, le principe des applications de rencontre qui utilisent la voix, c'est à peu près toujours le même. Hein. Donc, on dit, je recherche un homme ou une femme entre 35 et 45 ans à tant de kilomètres de chez soi. Mais après, au lieu de swiper à gauche ou à droite sur des visages, sur des selfies, eh bien, on va swiper
sur la voix.
Voix, sur des extraits sonores de gens qui vont se présenter en quelques mots. Et c'est assez incroyable.
Mais alors,
parce que...
c'est contre-intuitif parce qu'on est d'accord que ces sites de rencontres reposent uniquement sur le physique des gens.
Pas tous.
Non, Eva, vous ne connaissez rien aux sites de rencontres. Ces sites de rencontres que j'ai pratiqués moi-même à une époque lointaine, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec les gens.
Ah bon?
Eh ben oui, sinon, vous rendez compte très vite s'il y a une affinité ou pas par la discussion, par les blagues qu'on peut faire. On voit
le premier truc qui fait que vous swipez, comme vous dites, à gauche ou à droite, vous êtes d'accord que c'est
évidemment.
Sur un physique.
Mais là, ça va être la voix. C'est
Tinder,
très bien.
Tinder a cartonné comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quoi. On peut à la fois dire n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut se présenter, raconter une blague, parler du dernier film qui nous a fait pleurer, chanter une chanson. Alors, peut-être pas moi.
À mon avis, ça serait pas mal pour ne pas matcher. Ça serait comme ça.
Ou simplement se présenter, hein, je m'appelle Anissé, j'ai plein de trucs à partager, je suis dispo pour en discuter, une phrase extrêmement simple, mais il peut aussi y avoir des figures imposées, par exemple, au lieu d'écrire ma couleur préférée c'est le rouge ou je joue du saxophone, et ben là on va le dire et être mis en relation si chacun apprécie la voix de l'autre. Donc on a les deux, en même temps on a l'information et en même temps on a le son de la voix.
Et alors, commence par la voix et ensuite on voit la photo, c'est ça dans cet ordre-là?
Ça va dépendre des applications parce qu'il y en a deux, par exemple Revealer ou Weaver, qui montrent tout de suite la photo dès qu'il y a ce match, hein, cette rencontre, dès qu'on apprécie chacun la voix de l'autre. Donc la photo reste quand même très importante. Mais sur Unveiler, et bien là, ça marche vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire qu'au départ, les photos sont totalement floues. Et plus la discussion progresse, plus il y a ce fameux chat, plus on discute avec la personne, plus la photo se devient nette et se révèle au fur et à mesure.
C'est horrible. Vous imaginez, la photo est nette et là vous vous dites, ah ben non, c'est pas possible et vous coupez court à la conversation. C'est horrible.
Mais non, parce qu'on a réussi à attraper la personne un peu au début. Parce que si jamais la discussion se poursuit, c'est qu'il y a des affinités. Donc quand même, si on va pas jeter complètement quelqu'un avec qui on a des super affinités si à la fin on se rend compte qu'il y a.
Parce que vous êtes sympa, Anissé, mais vous savez, on voit ces choses. Alors est-ce que c'est quelque chose, cette mécanique-là, qui pourrait arriver sur des grosses applis applis comme Tinder, Grindr, Adopte un mec.
Ben oui, parce que ça marche extrêmement bien. Vous savez que le confinement a changé un peu les sites de rencontres. On veut des choses un peu plus profondes, un peu moins superficielles. Mmh. Et Tinder teste actuellement un truc équivalent pour vérifier, une fois qu'on a matché, pour vérifier si on est vraiment compatible. C'est une sorte de quiz à l'aveugle, comme à l'époque de Tourner Manège.
Oh là là, mon Dieu.
Donc il va vous demander, par exemple, quelle est la première chose que vous avez faite en sortant du confinement, ou donnez-moi trois objets que vous emporteriez sur une île déserte. Et si jamais les deux personnes répondent correctement, comme dans Tourner Manège, eh bien, on se dit qu'ils sont parfaitement compatibles. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que qu'on rencontre les gens pour ce qu'ils racontent, pour ce qu'ils disent, ce qu'ils sont capables de vous raconter, plutôt que pour ce à quoi ils ressemblent. Quoi.
Qu'est-ce que j'aime votre naïveté, c'est incroyable.
Pourquoi c'est pas naïf?
Vous êtes... Non mais si, c'est une bien. Forme de naïveté, mais jolie. Hein.
Mais on parle pas des plans cul, on parle des relations à long terme, parce qu'au bout d'un moment, le physique et le sexe, ça laisse place à autre chose dans tous les couples. Donc forcément, si on n'a pas cette affinité au départ, on n'ira pas loin.
En plus, le mec est philosophe. Oh là là, je sais pas si... Parmi nos auditrices, en tout cas, il y en a qui doivent vous chercher sur Tinder, là,
oui.
À mon avis. Ça cherche beaucoup. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la voix, sur l'attractivité d'une personne?
Alors, il y en a plusieurs. Ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve les mêmes règles un peu primitives de l'attractivité physique. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, que les femmes préfèrent les hommes avec la mâchoire carrée, un torse bien large, bien musclé, parce qu'elles cherchent un protecteur. Et bien là, c'est pareil pour la voix. Quand les femmes cherchent un plan cul, elles préfèrent les hommes qui ont une voix grave. Parce que ce sont les voix qui ont le plus de testostérone. Et au contraire, quand elles cherchent une affinité, quelqu'un qui est un confident, elles vont chercher quelqu'un qui a une voix un peu plus aiguë. Donc c'est hyper caricatural, mais ça marche aussi. Donc ce qui est terrible, c'est que même pour la voix, il y en a qui seront gâtés par la nature,
voilà.
Et d'autres qui le seront voix.
Voilà, c'est Eva, la conclusion.
Qu'est-ce que vous faites ce week-end?
Vous avez essayé de me choper avec cette voix-là?
J'ai essayé de prendre la voix la plus grave possible.
Je passerai vous faire un petit coucou chez vous.
Un petit bisou avec un masque. Merci.
Non, alors là, je pars tout de suite.
Merci Anis Mbida de m'avoir fait découvrir un univers que je ne connais pas du tout. Puisqu'en effet, je ne suis jamais allé sur un site de rencontre et bien sûr, je n'y ai jamais mis de photos dénudées.
Votre petit tatouage coquin que vous avez en dessous, là, derrière.
Ouais, on n'a plus le temps,
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Avec Sébastien Bordonnam, on vous a aussi trouvé quelques séquences étonnantes en dehors de cette émission. C'est sur les réseaux sociaux. Alors au menu de ce mix, écoutez bien, des nouvelles de Sheila qui organise quasiment tous les jours des discussions avec ses fans sur Instagram. Les dernières mesures d'hygiène à respecter dans les entreprises de Groland depuis le déconfinement. Et je vous propose de débuter avec un extrait d'un reportage diffusé sur France 2. Hélène, elle a 103 ans et elle a vaincu le coronavirus.
Devait être un simple au revoir pour Hélène François, ce sera une surprise. Médecins, infirmières, kinés, ils sont tous venus l'accompagner pour sa sortie d'hôpital. Cette patiente centenaire, contaminée par le Covid-19, est guérie. Sa voisine a imaginé le pire la concernant.
Oh ma petite dame, je suis contente, j'étais triste, je ne vous ai pas vu.
Vous voulez un petit apéro?
Oui. Attends, je regarde parce que j'ai des questions qui arrivent. Donc, bonjour, c'est MTV qui me fait un petit bonjour. Bon, vivante, oui, je suis vivante. Ils n'ont pas eu ma peau.
Déconfinement oblige, la vie en entreprise a enfin repris. Mais attention, rien ne sera plus comme avant. Comme le montrent ces pictogrammes apposés dans tous les locaux des sociétés, de nouvelles règles doivent désormais être adoptées. Pour éviter les contacts, les employés devront rester assis à leur bureau toute la journée. Pour éviter la transmission du virus, les employés sont invités à uriner à leur bureau dans une bouteille en plastique. Pour éviter les transports en commun, il est impérativement conseillé aux employés de rester dormir dans l'entreprise en posant la tête sur leur bureau et en utilisant un oreiller lavable et réutilisable 6 fois. Avec tout ça, on se dit que c'est peut-être pas les Chinois qui ont inventé le virus, mais ce serait peut-être bien les patrons.
C'était un extrait de Groland, voilà. C'était excellent. Le mix du jour.
C'était un très très bon mix, Eva. Je crois
concocté avec Sébastien Bordonnave.
On peut le dire, et ouais. Je suis désolé, mais je crois que je vais réutiliser le son. Comment s'appelle la doyenne, la dame?
Hélène.
Hélène, quand elle dit prends un petit apéro, ça va être un nouveau son pour moi et qui vous sera, je dirais,
qui vous sera attribué.
C'est tellement vous, Eva.
Ah oui, c'est vrai.
C'est tellement vous.
J'aimerais bien aller jusqu'à 103 ans et boire encore des apéros.
Dans quelques années.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. On va découvrir à présent le sujet d'Arthur Mbaché, qui nous avait parlé cette semaine, ce jeudi précisément sur Europe 1, de ce drive-in au sommet des montagnes vosgiennes pour bénéficier d'un repas concocté dans une ferme auberge.
Quand il Il entre en piste, le silence se fait. Les autres journalistes baissent la tête, ils savent ce qu'il leur reste à faire.
Nous allons serrer les fesses.
Arthur Elmaché est notre deuxième concurrent cet après-midi. Après la vie des cigognes et le fitness de balcon, il arrive avec un nouveau sujet. Quand l'épidémie de coronavirus oblige les lieux les plus ancestraux à se moderniser. Arthur, on monte avec vous dans la scénique Europe 1, 110 chevaux, direction assistée, vitre électrique. Et on monte là-haut, sur les crêtes vosgiennes, dans une ferme auberge qui se met, et oui, au drive. Et si j'ai bien compris, on va bien bouffer.
Et je vous annonce cet après-midi la fin de la carrière d'Olivier Pouls, ringardisé. Laurent Mariotte finito, top chef, nul.
Là, je suis en train de dérouler de la pâte pour faire mes tourtes.
La patronne.
La patronne, bonjour la patronne.
Bonjour.
Alors stop, prenez un stylo s'il vous plaît et notez le menu de Laurence. Interro les amis à la fin de la chronique.
Alors on fait des Reikeprakelti, on fait de la salade vigneronne, c'est du Wurstsalat avec du casse. Qu'est-ce qu'on fait encore? De la tarte au Münster, c'est aussi l'Eierkühr mit Münsterkäs. Simplement l'Eierkühr sans Münster aussi, on a Münsterkäs. Heiligbeerkühr, sagen wir. Alors dans la vallée de Münster, il y a Isbuiler, nous on dit Heiligbeer. Monsieur Ascas, on va le faire un monat, wenn es fait. Enfin, compte, pour l'instant, on n'a pas encore transformé.
Eh oui.
Ok.
Mais vous êtes de quel côté de la frontière, là?
On est bien dans les Vosges. On est à la limite entre l'Alsace et la Lorraine, sur les crêtes vosgiennes. On n'a pas encore transformé, dit Laurence. Évidemment, vous avez compris, je vous précise pas. Bon, quand même, Monsieur Ascas, le fameux fromage blanc au kirsch. Pas tout de suite. Les vaches ne sont pas encore là-haut sur les chaumes. Transhumance la semaine prochaine.
Alors, à ma connaissance, Arthur, mais je peux me tromper, les restaurants sont fermés. Il y a des clients là-haut, sur les sommets vosgiens?
Les clients du tout nouveau Drive. Et oui, Drive pour les gens de la vallée qui montent en voiture pour récupérer des
c'est
plats.
Génial.
Et Drive pour les randonneurs. Une ferme auberge, c'est un concept vraiment typique ici dans le coin. C'est un lieu et deux métiers, éleveur, en général des vaches laitières vosgiennes, donc éleveur et restaurateur. Or, en temps normal, 90% de la production de la ferme est écoulée dans le resto. Il fallait rouvrir, dit le patron Serge.
Vous voyez là, vous avez maintenant un sachet qui est prêt. Voilà, ça c'est du castor fumé, hein, c'est de la viande de porc fumée. Et ça, vous connaissez, c'est des landjager. Landjager, hein, ou des gendarmes. Voilà, donc c'est aussi fait avec la viande de nos bovins. Vous avez des Fleischnack. Donc les Fleischnack, hein, c'est de la viande de pot-au-feu qui est assaisonnée, roulée dans une pâte à nouilles. Donc pour ça, Fleischnacka, c'est en alsacien, Fleisch, c'est viande. Schnacka, c'est escargot de viande. Donc quand on le regarde bien, on voit que c'est un escargot de viande. Regardez voir. C'est bon ça.
Très franchement, Arthur, on rigole là. On rigole parce que les noms nous font rire, on ne les comprend pas. Mais en revanche, dès qu'on a l'explication derrière, moi ça me donne super faim.
Ah ben c'est délicieux. En plus, c'est une ambiance magnifique. Quand les restos sont ouverts, c'est absolument génial. Nous, on y va souvent. Nous Strasbourgeois, Colmariens, Mulhousiens, etc. On monte souvent sur les sommets.
Et est-ce que ça marche ce drive alors, ce drive des sommets?
Ultra bien. Écoutez la patronne.
Ah, c'est impressionnant. Ouais, on s'attendait vraiment pas à ça, mais on se rend compte que les gens sont quand même très. Ils nous soutiennent, quoi. Et le téléphone n'arrête pas de sonner, donc maintenant on prend les commandes pour la semaine prochaine. Voilà, c'est génial, on les remercie du fond du cœur de nous soutenir comme ça, quoi.
Alors maintenant, c'est l'heure de l'interro, les amis.
Bon,
facile pour commencer, qu'est-ce que c'est que des Fleischnacka?
C'est une farce composée de viande cuite, d'œufs frais, d'oignons, de persil, de sel et de poivre, et c'est roulé dans une pâte à nouilles.
Ok, donc élimination directe des vagues qui regardent effectivement sur Wikipédia. Moi j'avais vu que Fleisch, c'était la viande. C'était pas la viande, il disait le monsieur.
Oui, Fleisch, c'est la viande, et Schnacka, c'est l'escargot. Donc un escargot et la viande, c'est roulé, puis coupé en tranches avec un peu de bouillon. Et de la salade verte. Le siascas, vous avez
Ça, vous nous l'avez dit, ça. C'est le fromage blanc avec
quoi. Le kirsch, avec le
fromage
kirsch.
Blanc au kirsch.
Ah oui,
avec
vous
de l'eau de vie de cerise.
Ça me donne trop envie.
Et il y a des trucs où il n'y a pas de fromage, parce que là, vous n'arrêtez pas de mettre du fromage de partout. Et moi, je suis allergique. Donc,
parce qu'il y a les vaches du coin qui fournissent quand même la matière première. Mais non, il y a aussi le. Alors, ça, c'est vraiment dur à prononcer. Les Rögelbrögeldi, un truc comme ça. Moi, je suis né en ville, donc je maîtrise malheureusement pas l'alsacien, même si je suis né à Strasbourg. Mais ça, c'est des pommes de terre revenues dans une marmite avec des tranches de porc, c'est ultra bon.
Quelle
ça sent
belle
bon.
Idée.
Oh là, ça a l'air trop bon.
Eh bien, merci Arthur Elmaché pour ce reportage. Avant de nous laisser, je crois que vous aviez un message codé à faire passer à votre maîtresse.
Pas de bruit en forêt, les bûcherons sont à la maison.
16h-18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et Varoc et les journalistes d'Europe 1. Alors l'équipée sauvage, c'est une compétition, mais pas seulement. C'est aussi le moment où on prend des notes pour la recette d'Olivier Pouls. Et puis juste après, coup d'œil sur les réseaux sociaux pour dénicher des extraits drôles et décalés.
À ce stade de l'émission, et sachant qui nous allons retrouver maintenant pour la chronique culinaire, il nous faut apporter une précision à l'étude finlandaise sur les comportements routiers intitulée, je le rappelle, « Il n'y a pas que des connards qui conduisent des Mercedes ». En effet, une étude française réalisée en Bourgogne sur les 9 dernières semaines est catégorique « Les connards conduisent aussi des Hummers ». Bonjour Snoop Doggy Bag.
Bonjour les amis, mais je dois vous dire qu'avant toute chose, j'ai une petite confession à vous faire et j'espère que malgré ce que j'ai à vous dire, vous garderez toute votre amitié pour moi. Mais en fait,
vous êtes devenu végétarien.
Mais non, mais Snoop Doggy Bag, c'est un fake en réalité. Et bah, il n'y a pas de Hummer. Je n'ai malheureusement qu'une C15 de 380 000 km dans ma campagne bourguignonne. Ce que vous pensez être le clapotis d'un jacuzzi 10 personnes rempli de chablis, bah, c'est l'abreuvoir à vache avec de l'eau qui croupit.
Ah oui, c'est important.
Ce qui m'a quand même valu un sacré urticaire après mes dernières baignades. Et puis, bah, les mannequins nymphomanes, bah, c'est Gisèle Blanchu. Quand même, deuxième dauphine, Miss Jambon Persillé, 63. Elle est coquine, mais bon, elle est un peu servie, comme on dit. Donc, voilà.
On les embrasse quand même. Hein. Elle pique un peu, mais ça fait plaisir. Ça tient compagnie.
J'espère que malgré tout ça, vous saurez me pardonner parce que j'ai une recette pour vous quand même. Ah. Ça, c'est pas du fake.
Alors, avec quoi on finit la semaine?
Ça, c'est du vrai. On va finir la semaine avec un tartare légumier. C'est un plat que j'aime beaucoup, qui est très facile à faire, qui est plein de fraîcheur, plein de bonnes vitamines, qui est rapide et facile à faire. Alors, les légumes de saison, on va prendre une courgette, une carotte, on va prendre un demi-oignon rouge, on va prendre une petite branche de rhubarbe. Il y a plein de rhubarbe en ce moment, et puis c'est délicieux la rhubarbe, ça va apporter un petit côté acide très sympa. Une petite poignée de radis et 2-3 fraises, tiens, pas trop mûres. Là, c'est pour le côté un peu arrondi et un petit peu sucré. On va prendre tous ces légumes, on va les laver, bien sûr, éplucher ceux qui doivent l'être. Et on va les détailler en tout petits morceaux, en tout petits cubes de 2 mm de côté. On va mélanger tout ça. Et à côté, on va se faire une petite sauce. Alors, sur la base d'une mayonnaise montée à l'huile d'olive, avec une belle cuillère de moutarde, un petit trait de jus de citron, de la menthe et de la coriandre.
Oh là là,
et surtout, on ne mélange pas tout de suite. On mélange au moment de manger. Alors, si vous voulez emporter ce petit tartare par exemple au bureau dans les jours qui viennent, bah, vous gardez la sauce d'un côté, le tartare de l'autre, et puis au moment de manger, vous réunissez le tout.
Et moi je mettrais un peu de reblochon par-dessus pour Eva.
Non,
arrêtez. Si ça va servir à Eva, j'ajouterais reblochon fondu.
Une belle généreuse cuillère de reblochon. Voilà.
Vous êtes toujours aussi aimables tous les deux.
Magic touch en plus.
Ouais.
C'est tout Olivier Poul, c'est pas de dessert avec
bien.
Ça
Ah non, c'est bien.
Moi je prendrais bien un petit dessert là.
Y a on pas de dessert. Les desserts lundi si vous voulez.
D'accord. Moi lundi je veux un dessert.
Bon ben ok, ben, c'est bien noté.
Alors j'avais prévu de vous faire un petit gâteau lundi. Est-ce que je m'y engage là tout de suite comme ça?
Vous donnerez la recette aussi à l'antenne pour les auditeurs.
Ouais, je veux faire un cake au citron.
J'adore les cakes au citron.
Ben voilà, ça y est, c'est la
vendu.
Voilà, ça
vendu.
Sera pour lundi matin.
Merci Olivier Poul, je crois que le téléphone sonne chez vous. Je vous laisse aller répondre. À demain.
Bonne journée.
Non, pas demain. Demain dans la table des bons vivants.
Bah oui, avec Laurent Mariotte.
Avec Laurent Mariotte, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve lundi.
Absolument.
Gros bisous.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est l'heure du mix, Eva.
Mais oui, comme chaque jour avec Sébastien Bordonnave, on s'amuse à scruter les réseaux sociaux à la recherche de contenus drôles et décalés. Alors au menu, aujourd'hui, le très drôle Louis Bertignac pour à la fois un tuto guitare et des blagounettes très rock'n'roll. Le site de Topito qui a listé toutes les phrases qu'on prononce en ce moment depuis le déconfinement. Pas le confinement, le déconfinement. Et on commence avec le formidable Pierre Richard. Hier, il a posté une vidéo sur sa page Facebook, vidéo dans laquelle il nous lit la lettre d'un fan.
Il m'est arrivé durant toute ma carrière de recevoir énormément de courriers. Et je ne peux pas m'empêcher de vous en lire une. Cher monsieur Richard, figurez-vous que ma mère va fêter son 54e anniversaire. Nous préparons une grande fête familiale en son honneur. Alors si vous pouviez venir chez nous à cette occasion, je crois que ça lui ferait une grosse surprise. Ben oui, vu qu'elle aurait quand même préféré Gérard Depardieu. Seulement voilà, il n'a jamais répondu à notre demande. Et le temps presse. C'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur vous. Comme dit ma mère, faute de grive, on mange des merdes.
Vous me direz si vous m'entendez. Sinon, on reporte la session. C'est pas grave. Peut-être c'est une soirée sans son, comme Véronique.
Non, je sors pas. J'ai pas passé 2 mois à faire le ménage dans mon appartement pour sortir et tout dégueulasser en rentrant. J'ai de la farine, j'ai BFM. Je peux tenir encore des mois comme ça.
Alors, appli de muscu, ça dégage. Appli pour apprendre l'italien, ça dégage.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de cette machine à pain?
Et j'ai aussi Gimme Shelter. Ça vous intéresse d'apprendre l'intro de Gimme Shelter? Je parle pas de Michel Thor. Michel Thor. Gimme Shelter. Ce sont des Rolling Stones. Alors, Gimme Shelter, ça fait comme ça.
Il est en grande forme. énorme, Louis Bertignac.
Oh, oui, lui aussi se lance dans le stand-up.
Exactement, donc c'était Louis Bertignac, les gens du site Topito et le formidable Pierre Richard que vous avez entendu en début de mix, voilà.
Nathalie Chevance, puisqu'on a la chance d'être avec vous en duplex de Marseille aujourd'hui, comment ça se passe? On blaguait sur le professeur Raoult tout à l'heure, il disait lui que sur Marseille l'épidémie touchait à sa fin. Est-ce que quelle est l'ambiance sur Marseille? C'est ça, on vous sent un peu sceptique.
Mais écoutez, l'ambiance, la Raoult mania, j'ai envie de vous dire, ne retombe pas. Hein, parce que là, il y a par exemple une petite fourgonnette qui tourne dans Marseille avec la photo du professeur Raoult pour le remercier. Voilà.
Ah oui, quand même.
Version druide. Alors, c'est pas lui qui l'a fait. Hein,
oui,
c'est
on imagine bien. Ouais.
Voilà, mais c'est un admirateur. Alors, on se fait les tatouages aussi avec le visage du professeur Raoult, alors sur le bras, sur la cuisse.
Ah, c'est la nouvelle, tendance de l'été.
Oui,
une prochaine fois.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
2 heures qui s'achèvent, mais on vous donne rendez-vous demain dès 16h sur Europe 1 pour faire le plein d'infos, de découvertes et surtout de bonne humeur en compagnie de Mathieu Noël et sa bande.